Chapitre 13. Pouvoir et religion. Des liens historiques traditionnels. Cours. Pouvoir et religion en terre d'islam au Moyen-Âge. Comment les califes musulmans, dont l'autorité est autant spirituelle que temporelle, règnent-ils sur des empires multiconfessionnels? 1. Le califat, une fonction prestigieuse convoitée. A. Du califat électif au califat héréditaire. À la mort du prophète Muhammad en 632, la péninsule arabique est presque unifiée politiquement et ses populations sont converties à l'islam. Les quatre premiers califes qui lui succèdent à la tête de la jeune Oumma sont choisis par les fidèles parmi ses proches. Il lance les offensives musulmanes hors de la péninsule arabique, donnant naissance à un empire arabe qui, en à peine un siècle, s'étend de l'Espagne à la Mésopotamie, en passant par l'Afrique du Nord. En 661, Ali, gendre du prophète et quatrième calife, est écarté par Muawiya, qui fonde la dynastie des Omeyyades. Il déplace la capitale califale de Médine à Damas. D'électif, le califat devient alors héréditaire. Ce sont désormais les descendants de Muawiya qui se succèdent à la tête de l'Oumma. Leur légitimité est toutefois rejetée par les musulmans chiites, pour lesquels seul un descendant d'Ali, et donc du prophète, est digne d'exercer la fonction califale. B. La multiplication des califes. En 750, la dynastie Omeyyade est à son tour renversée par l'émir Abu al-Abbas al-Safa, qui s'arroge le titre de calife et fonde la dynastie Abbaside. Il établit sa capitale à Bagdad. Repliés en Espagne, à l'autre extrémité de l'empire musulman, les Omeyyades continuent à revendiquer le califat. En Égypte, la dynastie des Fatimides fait de même. L'empire musulman qui était resté uni sous les Omeyyades, 7e et 8e siècle, est désormais définitivement éclaté en plusieurs entités politiques rivales. Au Xe siècle, pas moins de trois pouvoirs, à Bagdad, au Caire et à Cordoue, prétendent ainsi exercer simultanément le califat. 2. Le calife, un chef temporel et spirituel. A. Un pouvoir en théorie absolue. Dans l'islam médiéval, il n'y a pas en principe de séparation entre le chef religieux et le chef politique. La situation est donc différente de celle des chrétientés occidentales et byzantines, où l'empereur cohabite avec un pape ou un patriarche. Successeur de Muhammad, le calife est comme lui un chef à la fois temporel et spirituel. L'ensemble des musulmans lui doit obéissance. Sur le plan spirituel, en l'absence de clergé, il est le gardien du dogme qu'il doit préserver de la bida. Sur le plan temporel, il est le garant de l'unité de l'Oumma qu'il doit préserver de la fitna. En tant que chef militaire, il doit protéger et étendre le Dar al-Islam et peut pour ce faire appeler les musulmans au djihad. B. Mais limité dans les faits. Le pouvoir califal est limité par l'existence de califes concurrents et parce que les chiites ne reconnaissent pas sa légitimité. De plus, il ne peut pas gouverner comme bon lui semble, car il doit respecter la charia sous peine d'être condamné par les oulémas, experts dans l'interprétation du Coran et de la Sunna, dont les avis font autorité. Une large partie de son pouvoir temporel est déléguée à un vizir, premier ministre qui se montre parfois indocile, voire rebelle, en tentant de prendre sa place. Dans l'Empire abbasside, le califat devient à partir du XIe siècle une fonction essentiellement symbolique. Réduit à sa dimension de chef spirituel, le calife est dépouillé de son pouvoir temporel par les émirs et les sultans qui règnent sur des portions de son empire. En théorie soumis à lui, ces derniers administrent en fait leur territoire à leur guise. 3. Le calife, souverain d'un empire multiconfessionnel. A. Des minorités religieuses nombreuses. À la faveur de leur expansion, les Arabes ont imposé leur domination à des populations de langues et de religions variées. Dès la fin du 7e siècle, les califes ne règnent donc plus seulement sur l'Oumma, comme Muhammad, mais aussi sur des masses de non-musulmans résidant dans les terres qu'ils ont agrégées à leur empire. Les populations pratiquant des cultes polythéistes sont contraintes de se convertir à l'islam. Les monothéistes, zoroastriens, juifs et chrétiens, sont pour leur part soumis à la dhimma. Ils peuvent continuer à pratiquer librement leur culte, mais doivent payer des impôts spécifiques et ont l'interdiction de porter des armes ou de monter à cheval. Ils n'ont pas le droit de construire de nouveaux lieux de culte, ni de faire de prosélytisme. B. Le calife et ses dhimmis. Certains dhimmis connaissent une ascension sociale spectaculaire, accédant par exemple au poste de vizir. Mais pour la majorité d'entre eux, ce statut est un handicap, ce qui explique que beaucoup se convertissent à l'islam pour y échapper, notamment en Afrique du Nord et en Andalousie. Pour éviter des pertes de recettes fiscales, l'impôt foncier initialement réservé aux dhimmis continue parfois d'être réclamé aux convertis. En terre d'islam, chaque communauté juive ou chrétienne dispose de ses propres institutions. Elles sont représentées auprès du calife par leur patriarche pour les chrétiens ou leur exilarque pour les juifs. Si le calife, en tant que souverain temporel, attend des dhimmis comme de tous ses sujets une obéissance absolue, il ne se mêle pas de leurs querelles religieuses puisque son pouvoir spirituel se limite à l'Oumma. Cette absence d'ingérence du pouvoir califal dans les débats religieux des dhimmis explique que le christianisme oriental se soit fragmenté en une multitude d'églises concurrentes.